je t'aime, je pense à toi, tellement je t'aime, je rêve de toi, tellement je t'aime, passionnez-moi, tellement je t'aime.
Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs et bienvenue dans ce nouvel épisode des Thermofromages. Les Thermofromages, c'est tous les deux mois l'émission de Proxy Jeux où on essaie de vous parler d'un terme du jeu de société pour essayer de faire un peu de clarté autour de ce terme. Parfois ça passe par l'historique, parfois ça passe par notre vécu ou par des exemples de jeux, ça dépend. La dernière fois c'était en décembre et on était dans un épisode exceptionnel avec Akariat, Pionfesseur et Hammer que je remercie de m'avoir accompagné.
Exceptionnel par mon absence peut-être ?
Exactement, parce que nous voilà en février, en 2019.
Pour le grand retour.
Père Castor, ouais. Tu as pris comme bonne résolution de revenir dans les termes au fromage.
Ouais, ben quand j'ai écouté l'émission, je me suis dit je peux pas laisser ça en vrac, hein, va falloir que je revienne au charbon.
Exactement, en tout cas, nous voilà pour la deuxième partie de la saison 9, pour un épisode en février, un en avril et puis un en juin. On finit toujours voilà. L'année.
Ça fera 6 normalement.
Et on va, aujourd'hui, on va parler de quoi, Père Castor ? On va faire un peu un lien avec un autre format qu'on avait commencé, qu'on a un peu laissé de côté, même s'il n'est pas abandonné dans l'absolu. Mais...
Alors, on va parler de thé comme thème.
C'est ça, et thème ou thématique.
Thématique, d'ailleurs. Ouais. Et après, on va l'étendre à, bien sûr, contexte, univers, etc. Mais on aura le temps de rentrer dans les détails.
Effectivement, on avait fait un format qu'on avait mis dans les chroniques, puis qu'on avait sorti des chroniques parce qu'il était un peu long, qui s'appelait « Tellement je t'aime ». Avec une merveilleuse introduction musicale et une merveilleuse conclusion musicale aussi. C'était le mieux du format, je pense. Là où on vous invite à les écouter, ils sont encore dispo. On avait fait un sur Terraforming Mars
c'est
et
ça.
Un autre sur...
Sur Imperial Settlers, ou Settlers tout court en français.
Et où on décortiquait un jeu par l'approche du thème. Alors c'est encore une fois pas un format abandonné, encore une fois à l'équipe de Proxy Jeux. C'est un format qui ne nous est pas réservé. Donc,
on n'a pas l'exclusivité, absolument.
Voilà. Nous, c'est vrai qu'on a peu l'occasion de jouer ensemble, ce qui est quand même nécessaire un peu pour voir les implications du thème.
On s'était donné comme objectif de faire au moins quoi
3-4 parties, 5-6, ouais. Un peu comme Cyrus et Benofix le font dans les jeux du mois, parce que mine de rien, pour voir les implications thématiques et tout, c'est quand même important.
En plus, là, on voulait les faire ensemble, justement, pour qu'on puisse synthétiser ensemble notre ressenti de thématique sur un jeu bien précis.
Donc voilà, si des chroniqueurs de proxy jeux qui ont l'occasion de jouer entre eux et plus souvent que nous, veulent s'emparer du thème, ils peuvent. Hein. Voilà, c'est pas réservé à nous. Et on va, avant de commencer sur thé comme thème, comme thématique, on va revenir sur les commentaires de l'épisode précédent. Alors, faut savoir qu'on enregistre dans la première moitié de janvier, donc voilà, il n'y a pas eu forcément énormément de commentaires encore. Vous pouvez en mettre un même de manière rétroactive. Mais je vais te laisser...
On va commencer par notre plus fidèle commentateur, donc à savoir Twin, qui nous
Twin
a fait trois commentaires à enchaîner à la suite. Donc on rappelle, hein, cet épisode, vous n'aviez pas pris un terme en particulier, mais vous aviez essayé de dégrossir plutôt le vocabulaire
c'était
ludique
un peu une mise
dans
en abîme
son ensemble.
Des termos, ouais. Puisqu'on parlait du vocabulaire ludique.
Alors, il nous remercie pour cet épisode. Alors, il a l'honnêteté de nous dire qu'il n'est pas forcément... un auditeur, on va dire, fidèle des thermos, puisque ce n'est pas forcément un format qui lui correspond.
Parce qu'il connaît déjà pas mal des termes. Alors, effectivement, on fait pas une définition, c'est ce qu'on disait comme Dédé le faisait avec le jeu expliqué à ta grand-mère. On parle de notre vécu, c'est plus une discussion autour du terme. Mais je comprends aussi qu'effectivement, des joueurs un peu plus chevronnés, ça ne les intéresse pas spécialement d'entendre parler pendant 30, 40 minutes, une heure d'un truc qu'ils connaissent déjà bien, quoi.
Ouais, surtout que des fois, on peut peut-être être un petit peu didactique, hein, sur ce qu'on dit. Donc, ça peut se comprendre que ça n'intéresse pas forcément. Donc, vous aviez utilisé le terme « moubourré » pendant cet épisode.
On se demandait si ça venait des forums trick-track, parce que je me rappelle d'un topic qui s'appelait le topic du moubourrage.
Et du coup, Twin, il s'est farci l'intégrale des 20 ans des guignols de l'info pour nous ressortir l'origine du terme. Et en fait, ce terme a été inventé par les guignols de l'info en 1995 pour qualifier la candidature d'Edouard Balladur à la présidentielle. Et donc, il nous donne quelques détails lexicaux, comme quoi ce mot viendrait de l'expression familière « mourir le bout », dans le sens de se faire... J'ai dit quoi ?
Mourir le bout.
Ah oui.
Écoute, ça doit exister aussi.
De
bourrer le mou. Ouais, c'est vrai que finalement, se bourrer le mou, c'est une expression qui peut exister.
Et donc, cette expression signifie se faire arnaquer ou se faire baratiner.
Et le mou dans l'histoire, c'est Balladur. Donc. Yes. Donc, merci pour cette petite précision qui vient d'en dehors du monde du jeu de société.
Et il y avait une deuxième précision aussi sur l'expression pousseur de cube, qui aurait sa filiation dans le pousseur de pions, qui était une analogie faite aux joueurs de wargame, notamment les wargames des années 80, qui utilisaient plein de petits pions en bois, une forme de parallépipède rectangle que tu mettais debout
Ouais, c'est ça, ouais. Et parfois qui était face cachée pour ton adversaire et que tu regardais.
C'est
quoi,
ça. Et ça devait faire domino party quand il y en a un qui se pétait la gueule sur le plateau.
Ouais, ça dépend du nombre de pions qu'il y avait. Et effectivement, il y avait ce côté un peu péjoratif de oula, c'est encore des pousseurs de pions, encore des gens qui restent dans leur coin et qui jouent à des jeux bien trop compliqués. Donc, ça, merci, Tuen. On est ravis que tu. Et il soit venu au thermo.
Et il a également fait un commentaire sur, par rapport à Magic, qui a, c'est vrai, mis en avant un certain nombre de termes propres au jeu, et pour certains sont rentrés dans la culture ludique.
Il avait parlé du draft, notamment avec Pionfesseur, que lui, vraiment, ça avait permis de donner ce sens matériel et gestuel au draft, qui a été un peu perdu ces dernières années, mais pas que.
Également le fait d'engager une carte, où en anglais l'expression se dit le verbe tap, qui d'ailleurs est a priori un terme déposé. Tu peux pas l'utiliser comme
Alors
tu veux.
Au début de soirée, ça, et ouais. Tu tapes. Et aussi tout ce qui est initiative, éphémère, rituel. On a parlé du mot rituel dans l'épisode, mais aussi tout ce qui est piétinement. C'est vrai que parfois on dit c'est comme le piétinement dans Magic, comme le vol. C'est des termes qui.
Surtout que c'est une mécanique qui, si elle est connue, c'est plus facile d'utiliser le terme plutôt que de faire une longue périphrase qui va expliquer en quoi ça consiste.
Je disais professeur à un moment.
Ouais, vas-y pour expliquer ce que c'est le piétinement à un novice.
Et donc ça c'est donc Twin. Donc merci pour ces petites précisions lexicales. Et on a aussi eu, je crois, un commentaire de Kisco.
Oui, Kisco, donc qui vous remercie également pour cet épisode et qui se demandait si vous vouliez pas créer un glossaire ludique qui pourrait prendre forme sous la forme d'un Wikipédia.
Alors, on en a parlé effectivement du fait que ce serait intéressant justement d'avoir un outil collaboratif sous forme de Wikipédia. En fait, il nous demande pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas directement dans Wikipédia. Alors, j'imagine que dans Wikipédia, il y a certains des termes ludiques, mais l'idée, c'est vraiment de faire un truc spécifique parce que Wikipédia, je crois que c'est pas. Enfin, on ne peut pas faire des grandes catégories comme ça, termes du jeu de société. Je me trompe peut-être, je ne suis pas un Wikipédia, est-ce que. C'est pas un connaisseur, mais je pense que vraiment un outil spécifique, comme il existe plein de Wikia, de Wiki en fait. Sur les trucs serait plus pertinent, on s'y est pas encore mis, on vous cache rien. On attend que Pionfesseur s'y mette.
Voilà, donc l'invitation est lancée.
Voilà, donc merci pour ces commentaires. Hein. N'hésitez pas à en refaire sur l'épisode d'avant, sur celui-ci qui va venir. Et on va pouvoir passer à notre thème du jour, puisque aujourd'hui on parle de thème.
Alors, la définition officielle donnée par Le Petit Larousse, c'est le sujet, l'idée sur lequel porte une réflexion, un discours, une œuvre, autour desquelles s'organise une action.
Ok.
Bon, c'est.
Ouais, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est autour desquelles s'organise une action. Et pour le coup, c'est vrai que dans le jeu de société, de manière générale, on fait des actions. Alors, il y a des jeux à pose d'action, à action pose d'ouvrier ou quoi. Mais dans l'ensemble, on fait une action, que ce soit pousser un pion sur un truc d'échec, que ce soit poser une carte, que ce soit quoi que ce soit, on fait des actions. Et donc
les actions s'inscrivent dans une mécanique qui s'oriente autour du thème. Donc on colle bien à la définition.
Voilà, la définition. Bon, on va s'arrêter là. Voilà, c'est ça le thème. Je reviens juste sur, il y a Alex P. Alexandre sur Twitter, donc JDS6700. Qui nous a fait remarquer que peut-être il faudrait faire gaffe, notamment à bien distinguer des choses qui sont plus ou moins des synonymes, ou en tout cas des termes qui ont des nuances proches, qui sont thèmes, même thématiques, on pourrait se demander, c'est la même chose. Mais aussi tout ce qui est univers, contexte, ce genre de choses. Lui, il donnait l'exemple de SF, donc science-fiction, avec l'exemple de Star Realms, qui n'a pas un thème particulier, mais qui évolue dans un univers de science-fiction, dans un contexte de science-fiction. Alors pour rien te cacher à toi et puis aux auditeurs, je pense qu'on va parler de manière assez globale. Hein, parce que
ouais, si on commence à faire la distinction, parce que c'est simplement une différence d'échelle. Je pense que si on parle d'univers, ça va être à géométrie large. Et,
alors que le thème pourrait être Star Wars, par exemple. Ouais. Pas dans Star Wars pour le coup, parce qu'il n'a effectivement pas un thème nommé. Mais voilà, on va peut-être effectivement élargir au contexte et à l'univers dans lequel se passe le jeu, même si on essaie de donner des exemples de thèmes plus précis. Et on va commencer par les enjeux de la présence d'un thème dans un jeu de société.
Est-ce qu'un thème, c'est important ? À quoi ça sert au final, un thème ? C'est vrai que c'est une question légitime qu'on peut se poser.
Exactement. Et en dehors même des mécaniques, pour l'instant, en dehors même de pourquoi est-ce que le thème peut être intéressant mécaniquement, etc., de cette fameuse cohérence qui est si difficile à obtenir, mais juste pourquoi est-ce que les joueurs, pourquoi les éditeurs, les auteurs, mettre un thème à leur jeu plutôt que de faire des pions en noir, en blanc et puis des quadrillages tout dégueulasses. Et on a isolé plusieurs hypothèses, plusieurs pistes de réflexion qui ne sont pas exhaustives, mais je vais te laisser la première.
On pourrait presque dire qu'un des premiers enjeux, ça peut être un aspect marketing pour appâter le chaland.
Ouais, c'est un côté communication. Ben, allez, on va vendre. Et pour vendre, ben, effectivement, les quadrillages dégueulasses.
Ça ne marche pas forcément.
Et ça marche de moins en moins. On le voit depuis 10-15 ans maintenant qu'il y a tout un truc autour de faire un thème chatoyant qui vend du rêve, même quand le jeu n'a pas forcément, ne retranscrit pas ce thème dans les mécaniques.
Bah le thème, en fait, il doit être porteur de l'intérêt pour le jeu, pour venir focaliser l'intérêt des joueurs, tout simplement.
Des acheteurs, et parfois des gens qui ne sont pas forcément encore des joueurs avertis et qui vont se promener dans la grande récré, qui vont se dire « Ah tiens, regarde, ça parle des cow-boys, ça parle des Indiens, ou bien ça parle de, je sais pas moi, de... »
Ça parle de zombies.
S'ils tombent sur Age of Industry, bon là, il faut... ça parle de l'industrie au 19e siècle, c'est passionnant. Non, mais en tout cas, ouais, c'est... En fait, c'est ce qu'on dit aussi souvent dans Proxy Jeux, c'est que le premier truc auquel tu es en contact, c'est l'illustration de la boîte. Et donc on verra.
Tout de suite, tu vas te projeter en fait dans cet univers. Hein. Tu vas
l'illustration et puis le titre pour le coup, qui sont vraiment les deux premiers trucs auxquels tu te confrontes.
Ça va directement faire appel
à tout un
imaginaire, à tes antécédents, à ton imaginaire, à ta culture au sens large.
Et
bah soit tu vas être appâté, soit au contraire tu vas y rester indifférent. Ouais.
Et d'ailleurs, on peut voir que ça n'arrive pas si fréquemment que ça, mais selon les territoires, donc selon les cultures, parfois le thème peut être modifié. Parfois, c'est sur des détails d'illustration. Parfois, je pense qu'il y a des exemples de trucs totalement rethématisés pour d'autres marchés. Alors comme ça, là, je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête. Si vous en avez en tête...
Il y a Mathieu Despnous qui en avait parlé sur la couverture de Imagine.
Ouais.
Pour la boîte russe, ils avaient fait retirer la Statue de la Liberté.
Ah ouais, bah ouais.
Bon, là, tu changes pas vraiment le thème. Bon.
Ouais, bon, surtout, non, imagine le thème, on peut
mais rappelle-toi, tu avais un jour cité le jeu Patchy Story.
Ouais, Patchy Story, mais pareil, le thème, c'est vraiment l'illustration qui a été modifiée. Et pas
c'est pas le thème dans son
ensemble. Thème. Ouais. Je pense que ça doit exister, qu'on ait modifié le thème, parce que c'était vraiment pas possible dans un pays, ou que tout simplement, bah, le jeu n'ait pas été exporté dans ce pays à cause du thème. Donc là, il y a le côté marketing qui est un peu le côté obscur. C'est oh là là, on veut vendre des jeux, ils veulent se faire de l'argent, ces éditeurs. Mais il y a aussi le côté plutôt justement démocratisation, peut-être, avec amener des nouveaux joueurs à ce média, à ce loisir. Et pour ça, ben, pour que le jeu de société se répande dans la société,
Il faut que tu aies des accroches par rapport à, on va dire, des références culturelles qui sont rentrées dans la culture commune.
Alors, soit effectivement aller vers le très grand public avec des trucs très larges, soit aller vers des niches qui peut-être ne connaissent pas encore le jeu de société, mais je pense par exemple à... C'est Yokabai Tsume qui fait des jeux à licence, on parlera après vite fait des licences, mais... On les avait reçus à débrezeler des jeux et c'était assez intéressant parce qu'il y a à la fois des joueurs qui sont détournés en se disant « Oula, des jeux à licence, mon Dieu, quelle horreur, mécaniquement ça va être nul », ce qui n'était pas forcément toujours le cas. Et inversement, là on a vu Senseiya qui était dans les top Philibert, alors que moi je ne l'ai pas essayé, mais les camarades qui l'ont essayé n'étaient pas forcément convaincus par la mécanique.
Cette réticence des licences, je pense qu'elle tire son histoire dans les jeux vidéo.
Ouais, et puis
tu prends les portages de jeux vidéo, société, des grands films, genre... C'est peut-être plus trop le cas aujourd'hui, mais les tout premiers jeux Star Wars, c'était pas forcément des perles ludiques en termes de jeux vidéo. Donc forcément, les joueurs qui, pour certains, ont un historique de joueurs de jeux vidéo, ils gardent les mêmes réflexes.
Ouais, et puis bon, il y a toujours un côté, c'est un peu facile. En gros, on voit vraiment le côté marketing et on se pose pas forcément la question de la mécanique derrière. Mais donc, Kyoka, oui, avait réussi à toucher des fans des licences animées ou manga qui distribuent. Et du coup, qui se sont dit « Ah, en fait, le jeu de société, finalement, c'est intéressant, le deck building. » Ils ont découvert le deck building avec Senseiya. Donc là, c'est... Et pourtant, c'est une niche. Donc soit on veut démocratiser au sens large, et dans ce cas-là, effectivement, on fait des thématiques plutôt consensuelles. Soit on se dit « Ok, il y a une niche peut-être qui ne connaît pas le jeu de société. Faisons un jeu dans cette niche-là, que ce soit avec licence ou non. Et peut-être que ça ramènera des nouveaux joueurs. » Et là, pour le coup, on est du côté clair, de la force. Puisque c'est un but de démocratisation, même si derrière, bien sûr, il y a des enjeux financiers, hein, forcément.
Du coup, il faut faire un jeu de société sur la thématique Fortnite pour amener des nouveaux joueurs.
Y a le Monopoly Fortnite qui existe, hein, bien sûr. Bien sûr. Mais tu rigoles, mais je suis sûr que le Battle Royale, fibre optique dans Game of Thrones, donc qui est un jeu de rôle diffusé sur Twitch, sur la JVTV, avait fait un épisode spécial Battle Royale qui était moins du jeu de rôle, même si les joueurs incarnaient un rôle, qu'un jeu de société, en fait. Alors que pas... utilisable en l'état, je pense, mais Enfin, la thématique du Battle Royale avec l'espace qui se restreint et tout, il y a des trucs à faire clairement, que ce soit Fortnite ou non. Je suis sûr que c'est déjà en développement ici ou là. Après, est-ce que ça, là, on est déjà presque sorti de la hype Battle Royale, même s'il y a toujours des millions de joueurs sur Fortnite. Mais donc voilà, à péter le chaland et on peut enchaîner peut-être sur effectivement la question des licences. Est-ce que ça peut, encore une fois, amener quelqu'un ou le rebuter totalement, quoi.
Disons que sur une licence, t'es directement sur un univers qui est figé, avec ses contraintes, avec ses limites. Un joueur qui a une appétence particulière pour cet univers ben, va peut-être s'y intéresser, avec un potentiel rejet, comme on disait avant, en se méfiant, en se disant « Oula, si c'est une licence, c'est... peut-être que le développement mécanique du jeu sera peut-être pas
ça,
très intéressant. »
C'est un travail long terme, quoi, après, hein, de toute façon. On peut penser par exemple à Star Wars, hein, qui est voilà, un jeu estampillé Star Wars. Alors ça pose bien sûr des questions sur les ayants droit et tout, on l'a vu avec Le Petit Prince aussi. Mais clairement, en termes de marketing... tu vends du Star Wars comme tu veux. Quoi. En
bon,
fait,
quand tu vois la qualité des jeux Star Wars qui sont sortis récemment, tu prends un jeu comme Rebellion, par exemple, il n'y a même pas à discuter sur ses qualités.
Que ce soit Rebellion, que ce soit X-Wing même, ou Assassin's Creed Empire. Ouais. Et ça, c'est aussi à quel point est-ce que les ayants droit ont un regard là-dessus et à quel point est-ce qu'ils veulent préserver la qualité autour de la marque. Et je sais que ça va dépendre des ayants droit. Il y en a qui vont dire « Ok, on vous file la licence, allez-y, faites ce que vous voulez, juste respectez quelques trucs et tout. » Mais ça peut être un jeu de merde, c'est pas grave. Tant que vous respectez les illustrations, nous, ça nous va. Et il y en a d'autres qui vont vraiment être plus exigeants, ce qui est délicat parce que est-ce qu'ils ont le background ludique pour en juger si le jeu est bon ou pas ? Pas forcément, mais c'est vrai que Star Wars, je pense qu'il y a des
après, est-ce que la mécanique... Enfin, est-ce que les ayants droit peuvent mettre des contraintes sur la mécanique ?
Mais ils peuvent refuser qu'un jeu soit édité s'ils ne le jugent pas. C'est bon, je pense, par contre. Enfin, je pense
ouais,
que
mais est-ce qu'ils ont la culture ludique suffisante pour estimer qu'un jeu soit bon ou pas ?
C'est ça, c'est la question que je posais avant. Ouais. Et bon, Star Wars a aussi son Monopoly. Hein, donc, voilà. Mais après, les enjeux marketing dépassent tout à un moment donné. Mais donc, ouais, effectivement, cette question des licences. C'est Bruno Feidouti, il y a quelques années, qui avait fait un post quand Gozu était sorti. Non, Corio, et où il avait dit ouais, mais bon, en même temps, si tu veux vendre ton jeu, en gros, Monster Games à l'époque, faut pas faire ça, quoi. Enfin, là, tu parles de trucs coréens d'anticipation, qui ça intéresse ? Finalement, Corio, c'est pas si mal vendu que ça. Pour le coup, moi, je trouve ça plutôt salvateur que des éditeurs aillent dans d'autres thématiques, mais ils disaient, mais non, mais il faut que tu fasses des nains et puis des dragons. C'est l'imaginaire collectif dont on parlait plus tôt, quoi. Enfin,
ouais, mais bon, au bout d'un moment, ta vie te fait. Enfin, moi, ça m'arrive des fois, je me dis, bon, j'ai fait le tour des jeux de zombies, j'ai fait le tour de tel univers, et c'est bien aussi de récupérer des contextes qui sont frais,
ouais,
et de découvrir de nouvelles immersions.
Bah, ça permet de découvrir des nouvelles cultures, en fait. Là, pour le coup, le média jeu de société a un autre but, enfin, c'est génial, moi, je trouve. Mais du coup, quand on parle d'Heroic Fantasy, justement, alors on a dit, hein, les licences, effectivement, peuvent amener des nouveaux joueurs, peuvent être un argument marketing, peuvent rebuter ceux qui ne sont pas
quelqu'un
sensibles à cet univers.
Quelqu'un qui a détesté un film Star Wars, tu viens lui présenter « Bon, on va jouer un jeu sur le thème Star Wars », tu vas obtenir un nom catégorique, hein, c'est sûr.
Mais du coup, comme on parlait d'Heroic Fantasy à l'instant, ce que tu disais avant en off, c'est que finalement, ça, c'est une catégorie qui est restée plus ou moins depuis 20-30 ans, et même depuis Donjons et Dragons, où l'Heroic Fantasy est un thème qui est resté.
Et qui va sans doute continuer.
Ouais, c'est une facilité. Après, ça n'empêche pas que le jeu soit innovant autrement. Mais c'est vrai que par ces thématiques, pas forcément. Alors qu'un L'Auberge Sanglante, par exemple, ben, c'est plus pointu, quoi.
Pour le coup, là, on est presque retombé dans la licence.
Presque, ouais, en tout cas, dans les faits réels. Mais du coup, en dehors de l'Heroic Fantasy, on voit aussi qu'il y a des modes de thèmes qui viennent, qui repartent.
C'est assez cyclique, en fait. Ouais, Alors bon, c'est des thématiques auxquelles vous avez tous déjà été confrontés. Hein,
alors là, peut-être que justement, Alexandre nous dira, attention, c'est pas un thème, c'est une thématique. Voilà. Mais on va les dire quand même.
Ou un univers.
Ou un univers, ouais, un contexte.
Il nous corrigera sans doute en commentaire ou sur Twitter. Donc, on n'a pas fait la liste de toutes les thématiques, mais en tout cas, celles qui reviennent les plus souvent, on a tous déjà joué à des jeux de western, on a tous déjà joué
à un moment
joué,
où c'était beaucoup les westerns. Ouais, ouais. On a cité Western Town, Cold Express,
Deadwood, t'avais cité également.
Oui, Deadwood, exact. Carson City aussi. Ouais. Et pourtant, c'est des jeux très différents dans leur mécanique, encore une fois, et même dans le traitement du western. Colt Express et Western Town ne sont pas vraiment comparables en termes d'esthétique. Ni de...
Voilà, mais il y a eu des événements déclencheurs qui créent une convergence des jeux qui sortent, alors pas forcément exactement au même moment, mais en tout cas dans des périodes relativement proches. Donc on a eu les westerns, on a eu les jeux de pirates à un moment.
Black Fleet, aussi... Piratoons.
On a eu les jeux de zombies, hein, ceux-là vous n'avez pas pu passer à
alors
côté.
Alors ça, ouais, c'est depuis 10 ans et c'est vrai que là on y est encore hein, dans l'ensemble, mais c'est vrai qu'avec Zombicide, ça a créé un grand truc. Il y avait aussi Z First Impact là, qui a moins marché, mais...
Ouais, il y avait...
Bah, Zombie Dice, même si...
Ouais.
Mais oui,
les jeux de zombies avec 3 points d'exclamation aussi.
Vrai. C'est vrai, et la rethématisation de Le Bon, la Brute et le...
Ouais.
Je sais plus
City
comment.
Of Horror. Ouais.
Voilà, exact. Ouais. Donc ça, c'est vrai qu'on n'en est pas encore sorti tout à fait. Il y a le post-apo aussi, hein, avec Outlive.
On pourrait presque dire que c'est une extension en fait, de la thématique zombie.
Ça peut, mais pas forcément. Ça dépend de l'apocalypse, en fait. Si c'est une apocalypse zombie, forcément, oui. Mais pour le coup, dans Outlive, je sais plus, c'est pas des zombies.
Non, il n'y a pas de zombies.
Voilà, c'est des survivants. Il y a aussi tout ce qui est les Vikings, qui est un peu... D'ailleurs, un qui avait dû changer son univers, justement, parce que parfois, on se dit, il y en a trop qui sortent, on lance un autre truc. En fait, finalement, tout le monde se précipite sur cet autre truc.
Bah ouais, dans les jeux de Vikings, il y a eu tous les pillards de la mer du Nord. Enfin, tous les mers du Nord.
Ouais, Blood Rage, pour citer les plus connus. Également, un truc qui m'a marqué, là, tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit des jeux de zombies. C'est rigolo parce que... finalement, ça définit rien comme genre. Et pourtant, c'est vrai qu'on s'exprime souvent comme ça, quoi. C'est un jeu de zombies, c'est un jeu de pirates, c'est un jeu de trucs, et qui sont des définitions thématiques et pas mécaniques du tout, quoi.
Ouais, alors qu'on a plutôt tendance à parler de jeux de gestion, de jeux de draft, de jeux de dés. Et c'est vrai qu'on pourrait presque créer une nouvelle...
Là, tout à l'heure, tu l'as dit assez naturellement, quoi, les jeux de zombies, quoi. Et ça évoque en fait un univers plus que des mécaniques, puisque les jeux zombies, Zombie Dice et Zombicide, donc aussi il y a des dés dans les deux. Mais c'est pas vraiment comparable.
Ouais, alors que ça paraît naturel de dire j'aime pas les jeux de dés, mais dire j'aime pas les jeux de zombies, alors qu'en dessous, ça peut, on peut avoir une multitude de mécas différentes. Mm. Là, on commence à voir un peu la dualité entre la méca d'un côté, la thématique de l'autre, et on voit que ces deux notions sont au final assez perpendiculaires, on pourrait presque dire.
Ouais, en tout cas, elles peuvent être connexes, mais pas forcément, et c'est vrai que dire les jeux de zombies, en fait, ça appelle tout un imaginaire et qui peut parler à n'importe qui, alors que dire un jeu pour prendre Hit the Road de Stop ou Encore ou de gestion de dés ou quoi, finalement, enfin, ça peut être sur n'importe quelle thématique. Et...
Ouais, mais tu vois, d'un côté, dire que tu n'aimes pas les jeux de zombies, ça peut tout de suite faire appel à des références comme quoi il va y avoir de la violence à l'intérieur.
Ouais, clairement.
C'est sûr, dans un jeu de zombies, tu ne vas pas te faire des câlins. Hein.
Non, pas encore, peut-être qu'un éditeur sera bien inspiré là-dessus. Et je voulais dire aussi juste un truc, c'est que, bien sûr, toutes ces modes ne sont pas spécifiques aux jeux de société. Dans le jeu vidéo, notamment, tout le post-apo, il est plus ou moins connexe, en fait, à la période du jeu de société. Disons, depuis le 2012-2013, il y a beaucoup de jeux post-apo, qui aient des zombies ou non, idem pour les jeux de zombies aussi.
Il y a eu This War of Mine, qui a été porté par la suite en jeu de société.
Exact, ouais. Donc voilà, c'est pas spécifique aux jeux de société. Et d'ailleurs, ouais, les thématiques du jeu de société et du jeu vidéo sont plus ou moins dans la même période, j'ai l'impression. Là, on a eu Sea of Thieves pour les pirates. Alors que le cinéma me semble un peu moins dicté par ces modes-là. Je me trompe peut-être. Mais si, des films post-apo, remarque, on en a eu aussi un paquet. En tout cas, peut-être pas dans les mêmes cycles.
Pas forcément récemment.
Les jeux.
C'est quoi un des derniers post-apes enfin, c'est quoi, c'est The Road ?
Ouais, il y a eu The Book of Eli, il y a eu... Si, il y a eu quand même eu, je pense, d'autres trucs depuis, mais bon, en tout cas, même s'il y a une mode, j'ai pas l'impression qu'elle soit au même moment que dans les jeux, que ce soit vidéo ou de société. Donc voilà, un des genres de jeux du thème, c'est appâter le chaland, vendre des jeux et éventuellement faire découvrir le média à d'autres joueurs, mais pas seulement, on a dégagé quelques autres enjeux.
Un des autres enjeux de la thématique, du thème, c'est de créer de l'immersion. On a vu quels sont les moyens mis à disposition pour créer de l'immersion autour d'une thématique. Il y a bien sûr les illustrations. Tu l'as dit, hein, on ne va pas jouer avec des cartes non illustrées, avec des plateaux encadrés. On peut, oui. Après, libre à toi de te faire ta propre immersion.
Après, il y avait Romaric Briand qui avait fait Le Val, avec un jeu de 52 cartes, quoi, et qui avait créé pourtant beaucoup tout un univers autour, écrit beaucoup de choses dessus, mais c'était jouable avec un jeu de 52 cartes, et les cartes avaient toutes, je me rappelle plus exactement, mais toutes, enfin selon les couleurs des cartes et tout, c'était assez intéressant. Et même là, du coup, ouais, il n'y avait pas les illustrations qui permettent de créer l'univers, mais en tout cas, souvent, oui, pour s'immerger dans l'univers, les illustrations sont un bon moyen, que ce soit celle de la boîte, des cartes de jeu, des plateaux, etc., etc.
Et aussi, souvent, le but du thème, c'est un peu de dédramatiser, c'est ce qu'avait dit Blanche hein, sur Twitter, et peut-être de diluer le côté un petit peu abscon des mécaniques qui vont être mises en œuvre dans le jeu, et de donner un peu de sens, de donner,
ouais, donner du sens, ouais.
Voilà, donner un peu de véracité aux actions qu'on va réaliser pour donner de la cohésion en fait à la mécanique.
Et donc ouais, le thème l'immersion, donc rentrer dans le jeu, se sentir à l'intérieur plutôt que juste avoir l'impression de faire des plus et des moins ou d'être dans un tableau Excel. C'est toi qui as cité tout à l'heure en off aussi qu'on pourrait jouer à des trucs sur Excel quoi, en gros certains jeux. Et de manière connexe, mais c'est quand même un truc spécifique, c'est la narration où on peut raconter grâce au thème des histoires. En tout cas, on peut raconter des histoires dans ce thème. Et en fait, en discutant, on s'est rendu compte que c'était plus quelque chose de mécanique que de thématique. On avait
pris en exemple les cartes rencontres hein, de Sight.
Qui sont assez intéressantes de ce point de vue-là, d'un point de vue de...
Alors moi, je t'ai posé la question. Donc les cartes rencontres, c'est quand votre personnage va atterrir sur un certain type de case, ouais. Vous allez pouvoir piocher une carte qui va être très joliment illustrée et qui va vous proposer des choix avec des effets et des conséquences.
En général, des effets positifs.
Et moi, je t'ai posé la question, au final, est-ce qu'on s'intéresse plus à l'effet, final, que aux possibilités de narration que ça va provoquer ?
Eh ben ouais, et ce que je disais, moi, pour le coup, alors déjà, je trouve que c'est une super idée, ces cartes-là, d'un point de vue mécanique, clairement, c'est pour inciter à y aller et pour donner des bonus. Mais surtout, en fait, ça raconte vraiment quelque chose. Enfin, moi, je sais que quand j'en pioche une, je regarde l'illustration, je lis les trucs, et en fait, ça me fait parfois marrer de la manière dont ils ont connecté les conséquences de la carte, les conséquences concrètes mécaniques, et l'illustration, parce qu'en fait, il y a en général trois propositions, et les trois pourraient coller, et parfois de manière un peu absurde.
En fait, tu te fais une partie de Dixit quand tu pioches une carte.
Ouais, un petit peu, c'est ça, ouais. Mais ouais, je trouve vraiment que c'est une super idée pour... C'est pas si compliqué que ça, et ça rentre dans l'équilibre du jeu, mais ça permet vraiment de se raconter un truc et de se dire, mon héros, il a rencontré ses mechas, il a fait ça avec eux, etc. Des choses propres. Hein. Mais ouais, et du coup, juste, je voulais préciser que on a bien distingué immersion et narration, parce que l'immersion, c'est juste se plonger dans un univers. Narration, ça suppose de se raconter quelque chose, de se raconter une partie de jeu. C'est quelque chose qui est assez rare, en tout cas pour moi. Je pense que ça dépend de...
Et avec une carte rencontre de Scythe, t'arrives à te raconter quelque chose ?
Ah ouais, à fond. À fond. Et ça rentre dans la partie, parce qu'en fait, dans Scythe, on pourrait se poser la question de pourquoi il y a des figurines alors que c'est plus ou moins un Eurogame. Et pour le coup, ouais, je m'identifie à mon personnage sur les déplacements qu'il fait sur la map, sur les combats que j'ai menés, sur les rencontres que j'ai faites, sur les mers que j'ai traversées, sur la façon dont on a construit un méga et tout. C'est un jeu, et pourtant, honnêtement, je ne suis pas trop à m'investir émotionnellement dans un jeu. Et là, pour le coup, je me raconte vraiment ma partie de ça, et j'y arrive.
Ouais, mais il faudrait presque que tes rencontres, en fait, aient un lien entre elles, au final. Si tu veux vraiment créer un arc narratif.
Ouais, un truc qui soit un peu cohérent, parce que là, c'est vrai qu'à un moment, je rencontre des paysans, je leur marave la tronche. Après, je rencontre leur frère, je leur dis oh, « ça va, allez, donnez-moi un peu de vin ». C'est vrai que c'est pas hyper cohérent de ce point de vue-là. Après, je pense que d'un point de vue mécanique, ce sera assez compliqué à organiser.
Tu vois, pour moi, autant ça participe à l'immersion, mais je le ressens pas comme participant à la narration. À l'opposé des cartes... Croiser des chemins de Dead of Winter, par exemple.
Ouais.
Où là, tu vas vraiment avoir du pavé de texte. Alors, au final, l'effet est identique. Ceci dit, tu as quand même un arc narratif un petit peu plus poussé, puisque les effets vont se déclencher en fonction du contexte.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Donc, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas juste je choisis A, B ou C. C'est je peux choisir A si il s'est passé telle ou telle chose.
Après, donc, après
tu,
dans
tu crées quand même un arbre narratif quand même.
Après, bien sûr, on peut citer dans la narration les jeux de rôle et tous les jeux qui s'en approchent, que ce soit le 7e continent, que ce soit Time Stories, que ce soit Château Aventure récemment aussi, ou finalement sur le run, rappelons Château Aventure, c'est un truc qui est là pour rappeler un peu les jeux vidéo textuels des années 80 par là, où il faut rentrer les commandes. Et donc ça fait des actions, et en fait, si on perd, on recommence au début. Mais c'est assez bien fait d'ailleurs de ce point de vue-là. Ça rappelle vraiment ça, parce qu'on se rappelle des actions qu'on a fait avant. Et du coup, c'est rigolo parce qu'on n'est pas vraiment l'avatar, on est vraiment comme le joueur de jeu vidéo, plus que comme le personnage, parce qu'il y a cette mémorisation des actions. Et donc, du coup, nos actions sont impactées par ce qu'on a fait avant.
En fait, tu as de nouvelles actions qui se débloquent par rapport à ce que tu as fait avant.
Alors, pendant la partie, oui, mais si tu perds, il faut quand même que tu refasses le chemin, mais tu le refais pas dans le même ordre, parce que tu sais qu'il y a un chemin, par exemple, qui est sans issue ou qui sert à rien ou un truc comme ça. Mais oui, donc vraiment, la narration, après, ce qu'on disait, peut y avoir deux éléments. Il peut y avoir le scénario, un côté plus scénarisé, comme dans peut-être Time Stories, peut-être le 7e continent, où vraiment, ça reviendrait à ce que tu dis. Encore une fois, mécaniquement, c'est compliqué de faire un arbre où, en gros, ah, vous avez choisi ça, bah, vous enlevez toutes ces cartes du paquet, parce que du coup, ça les supprime. Un jeu que je cite souvent, c'est Naufragé, qui faisait un peu ça aussi, de manière assez chouette, où il fallait aller chercher des cartes et tout dans le paquet. Ça, c'était assez réussi. Mais il faut donc distinguer le scénario qui est vraiment l'intrigue, qui raconte une histoire prédécrite, et l'histoire que tu te racontes en tant que joueur de ta partie.
Les arcs narratifs, ça va être comment est-ce que tu arrives à t'inscrire dans ce scénario, en passant par des chemins qui t'ouvrent des portes, en fait. C'est comme si tu ouvrais des portes logiques qui te permettent d'avancer dans le scénario.
Ouais, mais après, il y a scénario et puis il y a le lore, on parlera un peu du lore.
Attends, t'as dit un gros mot là, lore.
Le lore, c'est tout l'univers un peu, ce qui est écrit sur, par exemple, Dark Souls, on dit que c'est tout un lore un peu obscur, un peu dense, qui n'est pas forcément accessible. Le lore peut être beaucoup plus accessible. C'est tout ce qui est, ouais, disons, l'univers dans lequel évolue le jeu. En gros, pour moi, narration, c'est vraiment ce que tu te racontes dans cet univers. Alors, ça peut être guidé plus ou moins selon comment est-ce que le créateur du jeu a voulu le guider et comment il l'a guidé par les mécaniques. Mais on peut justement rentrer dans ce thème. C'est tout ce qu'on appelle aussi la narration émergente dans le jeu vidéo. Par exemple, je donnais l'exemple de Zelda, de Breath of the Wild, qui a un scénario, une intrigue dans laquelle tu peux avancer en allant voir les PNJ, etc. etc. Mais il y a aussi... en fait, l'univers a plein de choses à raconter qui ont été écrites quelque part. Mais moi, je vois une ruine, je vois un truc, je vois, je sais pas, des pommes qui sont tombées ou bien tel personnage qui est là. Et ben, en fait, ça me raconte des choses sans que ce soit... Enfin, ça a été écrit quelque part, ça fait pas partie du scénario, c'est-à-dire que je peux passer à côté. Et pourtant, ça participe à la narration. Ben, je trouve que dans le jeu de société...
Mais t'as un intérêt à aller voir ces pommes qui sont tombées ?
Scénaristiquement, non, mais par contre, ça me raconte des trucs. Donc moi, j'y trouve un intérêt parce que ça me fait vivre quelque chose.
Mais ça va te dire quoi ? Ça va te faire gagner de l'expérience ?
Pas forcément, par exemple.
Ça va te débloquer des trucs ?
Non, par exemple, je vais donner un exemple assez tôt dans le jeu, pour éviter de spoiler, mais il y a le plateau du prélude qui sert de tuto dans Zelda, et on saute et on arrive dans un endroit où il y a plein de ruines et où il y a des monstres et tout, et ben, sans qu'on me dise rien, moi, ça m'a évoqué un monde dévasté et des trucs par rapport à ce que je connais du scénario, et ça m'a fait m'imaginer des histoires qui sont vécues ici, qui ont peut-être été écrites encore une fois quelque part par les développeurs, mais qui interviennent jamais dans le scénario. Et pourtant, c'est là, et je trouve que le jeu de société participe plus de ce type de narration que du scénario. C'est-à-dire, on va se raconter des histoires à partir de nos actions, et à partir de ce qui nous est proposé, en fait, devant nous. C'est Guillaume, je crois, de Trick Track qui me parlait à l'époque de Puerto Rico, et où, alors encore une fois, là, ça dépend de chacun, de la capacité d'abstraction des mécaniques pour se raconter une histoire. Moi, je sais que j'ai du mal à me raconter une histoire quand je joue, honnêtement. Sauf
Asylum, du coup.
Sauf Asylum, Endeavor aussi, mine de rien. Enfin, un certain jeu comme ça, et je ne m'explique pas vraiment pourquoi. Mais lui, il parlait de Puerto Rico et de comment il arrivait à se raconter son histoire et tout après l'avoir faite en disant « Ah ben là, le maire, il a fait ça, et puis les colons, blablabla, etc. » Et bon, moi, j'en suis incapable à Puerto Rico.
Ouais, surtout que tu es clairement dans l'optimisation de l'utilisation de tes ressources là, et de la maximisation des points de victoire. Hein. T'es dans un tableau Excel à plusieurs entrées, là, pour le coup.
Ouais, carrément. Mais du coup, ouais, je pense que ça relève de la narration. Alors, créer de la narration favorise l'immersion. Pour moi, par contre, on peut s'immerger dans un jeu grâce au thème sans forcément qu'il y ait de la narration. Enfin, l'immersion peut passer par autre chose que la narration. On a dit par les illustrations, etc. Également, deux points sur la narration. Colt Express, là aussi, aucun scénario. Et pourtant, je me raconte clairement mon histoire quand je dépile les trucs. On rappelle, c'est un jeu de programmation.
Ouais, mais ça, c'est grâce à la mécanique de programmation. Ouais,
carrément.
C'est la mécanique qui te permet de créer l'histoire, en fait.
Voilà. Et le système legacy aussi, quand même, qui est important à nommer. Mais comme tu le dis, justement, on s'est rendu compte en parlant qu'en fait, c'est moins une implication thématique. C'est pas le thème qui crée la narration, mais c'est vraiment la méca. Et pour le coup, le thème... Que Scythe, ce soit ce thème, ou alors peut-être que les illustrations jouent et tout, mais que ce soit ce thème ou que ce soit le thème de Blood Rage, ou que ce soit, je sais pas, un thème où on va jardiner et puis hop, on rencontre une fourmi, elle me raconte un truc. En fait, le thème, peu importe là-dedans, quoi. Ce qui est amusant parce que c'est vraiment un truc qui permet vraiment de rentrer dans le jeu et de vivre émotionnellement des choses, ce qui est assez rare dans le jeu de société. Et ça passe pas par le thème, ça passe vraiment par la mécanique. Quoi. C'est là où on voit que le langage du jeu de société, c'est vraiment plus la mécanique que le thème. Quoi.
Et juste encore pour revenir sur ces cartes rencontres, c'est vrai que ça peut être intéressant, outre le fait de choisir l'action la plus rentable possible, c'est vrai que tu pourrais te poser une question un peu d'ordre philosophique.
Morale aussi. Ouais.
Morale, voilà. Est-ce que je vais faire du mal à ces paysans là, pour leur piquer leur moissonneuse-batteuse pour me créer un méca? Ou est-ce que je vais leur laisser? Et c'est vrai que tu pourrais te poser aussi la question
ouais, carrément, ouais.
De bah, la morale dans ton choix.
Comme dans les vidéos, est-ce que dans Zelda, tu peux jouer en étant VG clairement, ça sera peut-être plus compliqué, mais tu peux refuser de chasser. Et le jeu laisse la possibilité mécanique de le faire, encore une fois. Donc tu peux impliquer ta morale dedans. Mais donc voilà, on a presque fait un hors-sujet pendant un certain temps, parce qu'effectivement, c'est...
Mais
c'est...
Non, mais de toute façon, un épisode des thermos sans parler de Zelda, c'est pas un vrai épisode des thermos.
C'est ça. Non, mais c'est intéressant de voir justement que tous ces trucs qui permettent l'immersion, donc la narration permet l'immersion, ne sont pas forcément liés au thème, mais plus à la mécanique. Un autre enjeu, cette fois, vraiment important, c'est ce que tu disais tout à l'heure, justement, et ce qui a été plusieurs fois nommé sur Twitter, que ce soit par le Pionfesseur, par Acariâtre, par Blanche, c'est un enjeu des règles, une utilité, pas des règles, une utilité du thème, ça peut être de...
Autour de la méca, oui.
Ouais,
pour donner du sens, ouais. Donner de la cohérence et pas simplement faire de l'optimisation plus 1, moins 1 pour arriver à un résultat positif.
Ouais. Et c'est sinon, aussi tout ce qui est simplifié en fait, la compréhension des mécaniques ou du but du jeu. Notamment ben, pour les jeux complexes, ça permet de dédramatiser un peu tout ça, ça permet de se dire ok, c'est pas forcément simple, mais regarde, je peux te l'expliquer autrement.
Ça peut aussi permettre d'accepter, parce que tu te dis bon, pourquoi est-ce que je devrais faire l'effort de me farcir une règle de jeu complexe? Il y a cette promesse en fait de récompense. Enfin, moi, la thématique, l'aspect thématique et récupérer de la cohérence à la fin entre la mécanique et la thématique, je vois ça un petit peu comme une récompense et d'obtenir une satisfaction, de dire ah ok, c'est telle action, elle a un but bien précis par rapport à la thématique.
Ouais.
Ça, on est dans un univers ça cohérent.
En fait,
voilà,
ouais.
C'est une justification. Avec de la véracité, alors ça peut être de la véracité historique dans certains jeux, ça peut être de la véracité scientifique, comme dans Terraforming Mars par exemple. Bon, même si on est dans de la science-fiction, mais ça repose quand même sur des faits plausibles, à minima. Et ça, je pense que c'est important. Et ça permet aussi de faciliter l'acceptation de l'ensemble pour cette dualité mécanique d'un côté avec la cohésion de la thématique de l'autre.
Ça rejoint un peu ce qu'on disait avant, ça permet de se raconter une histoire en fait et... en racontant une histoire, de comprendre un peu les implications mécaniques de cette histoire. Alors Blanche disait, elle, que ça, ce qu'elle attend d'un thème, c'est que ça facilite la compréhension de la mécanique, quand c'est dans la règle, ou pas forcément d'ailleurs, juste par les implications thématiques, et également qu'elle rende agréable une mécanique justement complexe, qui ne serait pas forcément agréable sans la thématique, en fait, sans le thème.
Ouais, tu dilues un peu le côté abscon. Tu parlais par exemple des châteaux de Bourgogne.
Ouais. C'est le côté thème plaqué où il y a des thèmes où finalement il n'y aurait pas de thème, ce serait pareil. Bon, pour le coup là c'est un thème qui est mal exploité, qui justifie jamais trop la mécanique, mais pour reprendre un autre jeu de Stefan Feld par exemple, Notre-Dame, la mécanique des rails se comprend dans le thème quoi aussi. En fait ça pose toutes les questions autour de qu'est-ce que je fais quand je crée un jeu, est-ce que c'est je commence par la thématique ou par la mécanique avant de se rendre compte qu'en fait, pour l'avoir fait quelques fois, des protos, tu te dis ok, je crée cette sensation de jeu. Ouais, je crée plutôt une sensation de jeu, on peut aussi partir du matériel et tout. Mais quelle thématique j'ai choisi? Qu'est-ce qui me donne cette sensation de jeu? Qui ne sont pas des mécaniques à proprement parler. Mais...
Ou toi, tu parlais d'histoire avant. Quelle histoire tu as envie de raconter au final?
Quelle
expérience tu as envie de faire vivre?
Antoine Bozat a fait ça souvent sur Takenoko. Il voulait raconter l'histoire de ce panda du zoo de je ne sais plus quel pays, désolé.
Au Japon, ça c'est sûr.
Au Japon, pareil pour Tokaido, et il était vraiment parti d'une expérience de jeu, d'une histoire, pour faire court, si c'est un peu différent, expérience de jeu-histoire, mais et comment est-ce que je vais réussir à la raconter? Donc il y a ceux qui partent, effectivement, on a tendance souvent à les opposer de manière un peu binaire, mais ceux qui partent du thème et ceux qui partent de la méca, on va mettre, je ne sais pas, par exemple... Bruno Catala qui part de la méca, et puis pour ceux qui partent du thème, comme ça, Antoine peut-être justement, mais c'est pas forcément évident quand on joue à ces jeux. Mais en tout cas, il y a cette dichotomie, et l'essai de les rassembler. Alors certains assument de ne pas les rassembler, on peut penser à Azul ou au Château de Bourgogne. Il y a beaucoup de jeux de Feld pour le coup, en gros ils se disent bon, ok, bon, allez, un thème. Alors Bora Bora, allez, Bora Bora. Pourquoi pas, allez, on va prendre la Guyane. Allez, pourquoi pas, ça marche aussi. Et finalement, les liens thématiques sont assez distants. Mmh. C'est là qu'on parle vraiment de thème plaqué. En fait, thème plaqué, c'est vraiment quand on pourrait remplacer par n'importe quoi d'autre.
Bah, dans l'absolu, tu pourrais presque remplacer tous les thèmes par un autre. En adaptant, bien sûr, un petit
voilà,
peu.
Voilà, en adaptant. Mais là, c'est où on peut vraiment... Enfin, pour moi, en tout cas, c'est même... On pourrait mettre un jeu totalement abstrait et ça n'aurait aucune implication mécanique parce que les mécaniques sont totalement abstraites et jamais influencées par le thème, quoi. Alors, à ce point-là, c'est quand même pas si fréquent. Souvent, il y a quand même des mécaniques qui rentrent en résonance avec le thème. Mais il y en a quand même un paquet.
Bah, juste pour revenir sur la cohésion, du coup, des actions, c'est quand même plus intéressant de se dire, au lieu de dire... Je vais monter de plus 1 sur telle échelle, bah de donner le nom d'une action réelle qui a un sens, qui au final a le même effet. Mais si tu peux remplacer le nom d'une action par son nom, au lieu de par son effet, je fais plus 1 sur telle échelle, c'est quand même plus intéressant.
Je bouge le rose au lieu de je bouge le jambon.
C'est ça, voilà. Oui. Non, ou te dire je vais planter une forêt pour produire de l'oxygène.
Ouais.
Alors que dire je fais plus 1 sur l'échelle d'oxygène,
ouais,
c'est le même effet. Mais c'est pas du tout la même chose que tu racontes.
Oui, carrément. Pour revenir sur les réactions de Twitter, donc il y avait Akariat qui disait les rôles du thème, ça on l'a déjà dit, donner envie de jouer, ça rentrait plus dans la première partie. Faciliter l'évasion du réel, l'immersion dans l'imaginaire, ça rentre aussi plus dans ce qu'on disait avant. Ensuite, vivre des expériences impossibles autrement, alors ça c'est encore autre chose. Donner de l'enjeu, et c'est-à-dire mettre un thème, ça va permettre de... Quand il dit donner de l'enjeu, j'imagine que c'est il faut que je fasse ça, il faut que j'arrive à cet objectif, il faut que j'aille sauver la princesse pour prendre un archétype connu ou sauver le prince. Faut que j'aille.
Ouais, mais alors là, il faut faire attention parce que moi, j'ai souvent tendance à expliquer un jeu au début par sa thématique et par raconter un petit peu son univers. Mais pour des personnes qui sont très peu réceptives à de la thématique, ça peut être un frein direct et presque un non catégorique de vouloir jouer au jeu. Alors que si tu commences plutôt par un aspect mécanique ou par une présentation du matériel avant même de présenter l'univers, ça risque de mieux passer.
Ouais, ça dépend, je pense, des récepteurs. Et enfin, il disait lui aussi faciliter la compréhension des règles. Et puis, Onfesseur disait aussi permettre des blagues et des remarques rigolotes, éventuellement. Le thème peut justement apporter de l'interaction en fait, autour de la table.
Bon, ça dépend des...
Ça dépend
ça
du
des thèmes.
Ouais. Ouais. Mais donc, oui, il y a ce côté quand même thématique mécanique. Tu l'as dit, que ce soit dans l'explication du jeu.
Qui pour moi est indissociable, du coup.
Ouais, j'imagine, ouais. Enfin, moi, ça m'est rarement arrivé d'expliquer un jeu purement mécaniquement. On en a parlé.
Si, t'as les jeux de plis.
Oui, les jeux de plis, ouais, c'est vrai que c'est difficile de mettre.
Il y en a qui mettent de la thématique dessus, mais
parfois,
souvent.
De manière réussite, mais s'il faut collecter des choses ou des trucs comme ça, ça peut être intéressant, mais ça reste des jeux, en fait, des jeux plus abstraits peut-être. Donc, il y a au niveau des explications des règles, on en a aussi parlé dans le vocabulaire ludique, parfois s'adapter à son public. Et il y a aussi justifier, légitimer les actions en jeu, ça on en a aussi un peu parlé avant, c'est ce que tu viens de dire en fait, c'est plutôt que de dire je fais ci, et ben, tu parles en termes.
D'action thématique qui applique un.
Comme si on parlait en fait dans la vraie vie et non dans le jeu.
C'est ça, oui.
Et également, un autre exemple, c'est Shakespeare, où moi, je sais que je parle totalement en termes thématiques. Je recrute un acteur, ce genre de truc.
Au lieu de prendre, je vais prendre un cube violet, quoi.
Alors que c'est un jeu de gestion. Et du coup, ouais, pour finir sur ce côté cohérence thématique et mécanique ou non, il y a en fait tout ce travail d'équilibre à trouver. Effectivement, c'est rare que ce soit totalement mécanique ou totalement narratif, totalement thématique, puisque forcément, un jeu a des mécaniques. Mais
peut-être Sherlock Holmes. Enfin, non, t'as quand même de la méca dedans.
Il a pas mal de mécaniques. Même Winter Tales, qui est un jeu très axé sur la narration, a des mécaniques. Tout va se jouer en fait sur l'équilibre et à quel point est-ce que c'est thématique ou mécanique. Comme dit, pour avoir fait l'exercice plusieurs fois, souvent en fait ça se répond, c'est ok, alors attends, je vais partir sur ce thème, comment est-ce que je peux le justifier mécaniquement, ok, je fais ça, ah mais mécaniquement là ça colle pas. Moi j'avais l'exemple d'un jeu politique sur les ministères, quel ministère je choisis, oui mais en même temps les actions ça va être ça, ah mais c'est pas cohérent, donc je change les actions, ah mais du coup, ça... enfin c'est des cercles qui se répondent comme ça, d'ailleurs les cercles ne se répondent pas, mais enfin des réflexions qui se répondent.
Tu fais des diagrammes de patates là du coup.
C'est un peu ça, mais donc c'est vraiment à quel point est-ce qu'on cherche un jeu équilibré mécaniquement, donc qui tourne parfaitement, qui soit parfaitement équitable, ou justement on se dit ok c'est pas équitable, mais c'est pour favoriser l'immersion, pour favoriser le thème et pour rester dans le thème du jeu. Et je sais que bah, du coup, c'est... est-ce qu'on choisit justement de casser l'équilibre du jeu non équitable et finalement de créer soit de la RNG dans les jeux vidéo, la RNG c'est le côté un peu procédural, voilà, y a certaines choses qui ne se passent pas comme tu veux, mais ça fait partie de la vie en fait.
C'est Sébastien Dujardin qui, je crois, avait dit lors de notre interview qu'il refuserait de faire des impasses mécaniques pour prouver de la thématique.
Ouais. Donc c'est ça.
Le cœur de l'équilibrage pour lui était plus important.
C'est ça. Bah ça va aussi avec les jeux qui produit pour le coup en général. Donc soit tu choisis effectivement de t'écarter de cet équilibre mécanique, tu te dis ok, mais c'est au service du thème. Moi, je suis à fond dans le thème. Et bah, les mécaniques, elles en prennent un coup. C'est pas grave. On peut penser à Zombicide. Ou parfois, voilà, le scénario est complètement pété ou des trucs comme ça. Y a un minimum d'équilibre, mais il faut que ça reste fun. Il faut que ça reste dans le thème. Faut que ça colle à Star Wars, donc faut que ça colle à tel personnage, faut que ce personnage soit cohérent avec ses actions, sa morale, etc. Ok, c'est pas équilibré, ne serait-ce que des... On peut penser à Keyforge aussi, par exemple, où les decks ne sont pas forcément équilibrés entre eux.
Mais là, c'est pas à cause de la thématique, pour le
là,
coup.
Là, c'est plus... ouais. Mais bon, si, c'est aussi pour respecter la thématique du deck, j'imagine que certaines cartes sont là ou pas. Mais,
Ah oui, mais qu'un deck soit déséquilibré par rapport à un autre.
Oui, ouais, c'est clairement.
C'est juste par rapport au mix des cartes, en fait.
Donc, il y a soit on fait ce choix-là, on se dit, ok, je veux rester dans mon thème à tout prix, rester cohérent dans le thème, ou bien, comme tu l'as dit, avec Sébastien, ou avec pas mal de joueurs, en fait, de jeux, en tout cas, on se dit, bon, on sacrifie le thème un petit peu sur certains points, pas sur tous, parce qu'il faut garder l'équilibre, il faut que ça reste mécaniquement viable et tout. Et parfois ça donne des jeux un peu mous, un peu mouif, où tu te dis bon, il n'y a ni l'un ni l'autre qui se dégage trop.
Ouais, un petit peu comme si, je sais pas, t'as un jeu, tu te fais attaquer, tu te fais attaquer par des zombies ou quoi que ce soit, ou des pillards, et ils vont venir et ils vont pas te prendre l'intégralité de tes ressources. Parce que ça serait trop déséquilibré de venir complètement te vider tes réserves.
Alors même qu'ils t'ont complètement vaincu. Parce qu'à la limite, s'il y a un équilibre et qu'il y a tes forces qui restent et tout, on peut se dire bon, ils ont pas réussi à tout prendre. Mais effectivement, ouais.
Du coup, ils vont te laisser quelques réserves pour que tu puisses redémarrer et revenir dans la partie. Ça ne s'explique pas forcément thématiquement.
Mais souvent, ils essayent de justifier ça par le thème. Par exemple, je pense à Kemet, où tu as tes troupes détruites. Comme c'est un peu magique, ils réapparaissent à ta pyramide. Et donc là, si on recherche ça, il y a cette fameuse dissonance ludonarrative dont on parle souvent dans le jeu vidéo, où tes actions n'ont pas une cohérence thématique, mais c'est pour le bien du jeu. Et là, dans le jeu vidéo, il y a des exemples, je vais en donner deux rapidement. Il y a Uncharted, où Nathan Drake n'est pas un tueur en série, n'a pas une compétence exceptionnelle en armes, mais...
Mais son tableau de chasse est impressionnant.
Son tableau de chasse est impressionnant, parce qu'il faut que ce soit fun, même si les fusillades dans Uncharted sont un peu pourries. Donc il y a ça, et puis il y a Zelda, par exemple.
Encore une fois, Zelda.
Zelda, mais parce que finalement, Lynn qui se réveille et tout, il apprend que Zelda est enfermée au château de Ganon. Et lui qui veut le bien, il devrait se précipiter, comme le font les speedrunners, tout nu. Allez, Ganon, viens là, et puis je te prends en duel. Mais non, tu passes 130 heures à aller voir le monde et aller chercher des champignons et puis aller chercher des noix de Korogu plutôt que d'y aller avant, parce que l'univers est attachant. Et donc ça, c'est la fameuse dissonance ludonarrative dans le jeu vidéo. Et donc dans le jeu de société, on l'a aussi, puisque c'est on a un peu sacrifié, c'est peut-être pas logique. Peut-être que dans la vraie vie, ce serait pas comme ça, mais au moins, ça fonctionne.
Si tu prends un jeu comme This War of Mine, il y a peut-être certains choix quand tu vas aider des PNJ. Tu vas pas le faire pour le bien moral ou quoi que ce soit, mais tu sais potentiellement que tu vas en tirer un bien bénéfique plus tard. Donc c'est un petit peu un investissement au final que tu réalises.
Donc voilà un peu pour les enjeux de la présence d'un thème dans un jeu de société. Alors, on n'a sans doute pas fait le tour. Hein. Et même le titre de la partie, les enjeux, est sans doute un peu perfectible.
Et on va juste encore parler d'une partie où comment est-ce qu'on amène le thème, en fait, dans le jeu de société.
Par quel moyen, ouais.
Donc, tu l'as déjà cité, hein, on a parlé des illustrations, forcément, obligatoire. Hein.
Alors là, on laisse le soin à chaque directeur artistique de voir comment il travaille avec l'illustrateur, à partir de quelles références, etc., quoi.
Alors toi, tu avais cité aussi deux mots que je n'ai pas l'habitude d'employer. Tu avais utilisé le mot « fluff » que tu as opposé ou que tu as couplé avec le mot « lore ».
C'est un peu la même chose. C'est un peu l'univers qui entoure le jeu. qui n'est pas forcément retranscrit dans les mécaniques ou même dans les règles, mais c'est tout ce qui va avoir été pensé autour. On peut penser notamment que ce soit dans les règles ou que ce soit aussi sur le site de l'éditeur, par exemple, qui va préciser son univers, mettre à disposition d'autres...
C'est un peu du contenu additionnel, contenu parallèle, en fait.
Mais qui souvent est créé avant de sortir le jeu, parce qu'il y a une création parfois d'une espèce de bible. Hein. On peut penser à Seeders, Exodus, je ne sais jamais, voilà, qui, on l'avait eu Didier Jacobé à des brins des jeux, qui est sur un très long terme, et où il y a énormément de choses écrites sur cet univers que nous, on n'a pas, mais qu'eux, ils ont et auxquels ils essayent de se tenir pour raconter leur histoire.
C'est un peu les tables de la loi pour créer leur jeu, quoi. C'est leur fondation.
Et avec des centaines de pages, pour le coup. Et on peut aussi citer, par exemple, et ça pourrait aussi être des trucs cross-média ou trans-média. Alors, plutôt cross-média que trans-média. Trans-média, c'est quand on joue à travers plusieurs outils, mais au même jeu. Par exemple, In Memoriam, à l'époque, le faisait très bien. Cross-média, ça va plutôt être autour d'un même thème. Des BD, des jeux, des albums, que sais-je.
Mais est-ce que tu as une connexion réelle, en fait ? Ou est-ce que c'est simplement des œuvres indépendantes qui partagent un même univers ? Parce que là, ce qui va être intéressant, oui, c'est quand ça, tu ça retrouves dépend, ouais. des points d'accroche de narration, en fait, entre les différents objets, entre les différentes œuvres.
Ouais, alors ça, j'imagine que ça dépend. Et ce n'est pas quelque chose qu'on voit tant que ça. On peut penser aux gammes, par exemple, à Luma, qu'ils avaient tenté avec No Captain et puis Nomad. Où là il y a des choses qui se font entre les jeux. On peut aussi éventuellement penser à, je sais pas, des BD qui seraient autour d'un jeu. Je sais que c'est Florent Toscano avec les jeux au plat où il fait des jeux qui sont dans des univers de BD.
Pour reparler de Star Wars aussi, t'as certaines séries, par exemple les séries animées Rebels, qui va te raconter des histoires que tu vas avoir nulle part ailleurs. Et pareil, tu as des bouquins qui vont te raconter aussi d'autres histoires, mais tout ça avec une cohérence un peu globale.
Ça dépend, parce qu'il y a certains trucs qui sont canons et d'autres non.
Ouais.
Attention, mais oui, en tout cas, ils essayent de garder cette cohérence-là, où, avec Marvel, à travers les différents films et les séries et tout. Mais donc, il y a tous ces moyens-là. Il y a Purple Brain aussi qui inclut les contes, par exemple, dans ces jeux. Donc voilà, ça c'est le lore, c'est des choses qui sont du domaine, en fait, qui apportent beaucoup de thèmes. Dans le jeu de société, dont on n'a pas forcément toujours connaissance d'ailleurs, mais qui existe. Et pour le coup, tu as cité tout à l'heure la façon dont on pouvait amener le thème dans le jeu à travers des recherches historiques ou quoi. On peut citer plusieurs choses qui sont...
Bah surtout les jeux de thématique historique, hein, où il va vraiment y avoir du travail d'historien. Hein, mais là encore, c'est parce que c'est des catégories de jeux très pointues pour un public averti. Et la communauté de joueurs, aussi petite soit-elle ou aussi de niche soit-elle, va être assez exigeante et risque de pointer de manière assez exhaustive. Ah bah, dans tel peloton de telle armée, ils avaient des bandoulières en tissu et pas en cuir. Enfin, ils vont, ils vont
là,
vraiment être experts sur le sujet.
Effectivement, dans les wargames, alors là, il faut que la personne soit à la fois de niche joueur et de niche un peu historien, reconstitution et tout, mais il y en a quasiment à chaque fois, hein, dans tous les jeux, on dit « Ah, mais là, c'est pas logique ». On peut citer Netatanka, là, il n'y a pas longtemps, qui avait été pointé du doigt pour certaines choses. Et en fait, ça, c'est un travail un peu invisible, tout ce qui est le lore, le fluff ou la recherche, qui sont des choses différentes, mais qui demandent un peu le même travail de fond. C'est soit, et ça peut être l'auteur, l'illustrateur, ça peut être l'éditeur, enfin, ça peut être un peu n'importe qui, lié au jeu, c'est l'écriture d'un univers, ou bien effectivement tout ce qui est la recherche. On peut penser à Lewis et Clark, où il y a eu énormément de recherches pour choisir qui serait sur les cartes.
Bah, par exemple, dans le livret de règles, t'as un petit texte historique sur l'intégralité des personnages que tu vas avoir dans le deck de cartes. Et des personnages, t'en as, je crois, une soixantaine. Et donc, t'as la petite histoire de chacun des personnages, quel a été son rôle dans l'expédition, etc. Tu vois,
c'est bien qu'il l'ait mis, parce que souvent, c'est vrai que c'est justifié, enfin, il y a du travail derrière, mais on ne le voit pas, nous. Et là, pour le coup, ça permet d'en avoir au moins une partie émergée. Il y avait Bruxelles aussi, Bruxelles 1893, de Pearl Games, où tout est justifié thématiquement. Alors, c'est un pur jeu de gestion, mais il y a plein de petits trucs thématiques qui ne se ressentent pas forcément dans la mécanique. Enfin, dans la mécanique, c'est cohérent, mais on sent qu'il y a une recherche faite en y jouant, sur tel truc ou sur tel autre truc. Et c'est vraiment cool de s'en rendre compte, de se dire « Ah ouais, là, ils ont été chercher Enfin, ils ont, il y a vraiment tout un travail derrière, quoi. Et c'est souvent un peu invisible comme ça. Alors, saluons les éditeurs, les auteurs et les illustrateurs qui travaillent derrière. Je crois que c'est Vincent Dutré aussi qui cherche beaucoup de références comme ça quand il illustre un truc. Mais c'est une manière d'amener ce thème-là dans le jeu, quoi.
Et tout ça, c'est pour apporter de la cohésion et de la véracité. Hein.
Ouais. Et alors qu'ils pourraient mettre d'autres trucs, mais ça marchera aussi. Mais ils choisissent de faire ce travail et ça apporte le thème dans le jeu. Après, il y a tout ce qui est dans les règles en elles-mêmes. Alors, ça peut être, le fluff peut être dans les règles, hein, où il y a le petit pitch introducteur, où vous êtes, je ne sais pas, un aventurier sur le 7e continent, que sais-je.
Je sais que dans les wargames Conflict of Heroes, par exemple, tu as du texte qui est toujours de couleurs différentes en fonction de la visée en fait, de ce texte. Donc, tu as les règles qui vont être écrites en noir, tu as les notes de l'auteur qui vont être écrites en bleu, tu as les exemples en rouge, et des fois, tu as les notes historiques en vert, tu vois. Donc,
c'est l'arc-en-ciel.
Comme ça, tu peux te repérer sur le point de texte qui t'intéresse, et comme ça, tu peux zapper le fluff ou le lore qui t'intéresse pas.
Et alors, ça peut être aussi dans le but du jeu, la façon dont t'es présenté, c'est avoir plus de points de victoire ou bien être le plus riche des marchands. C'est deux choses différentes, et pourtant, ça peut être le même résultat mécanique. Tout ça, on en parlait pas mal dans le Tellement Je T'aime, l'analyse un peu des règles et de ces différentes parties.
Tu vois, si je reviens juste sur Conflict of Heroes, par exemple, tu avais des unités qui étaient moins puissantes chez les Russes par rapport aux unités allemandes, et ils l'expliquaient dans les règles avec une note de l'auteur, pour une raison bien particulière d'organisation des régiments et des pelotons de l'époque.
Donc ouais, ça peut aussi être dans la façon dont on explique les mécaniques, parce qu'il y a bien sûr... vous faites ça comme action, mais parfois il y a aussi pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Eh ben, c'est une justification parce que, et le professionnel de ça, c'est bien sûr Vlad Ashuatil. pas dans tous les jeux, hein, dans Codenames, je crois pas qu'il fait ça quand même. Mais dans les Dungeon Lords, Dungeon Pets, je crois aussi dans Space Alert, où il y a le texte et à côté, dans Dungeon Lords, il y a un petit diablotin qui est l'explication thématique. Alors, ça a un effet positif, c'est que ça apporte effectivement une autre façon de voir la règle, qui parfois pour les joueurs un peu moins avertis, alors. Qui vont, j'espère pas, Dungeon Lord tout de suite, mais permet un peu d'accessibilité. Ça a aussi un effet quand même possiblement négatif, quoi. Et pareil, c'est ce que tu disais dans Conflict of Heroes, quoi. C'est de rajouter plein de trucs et de pas savoir où mettre les yeux et de rallonger la règle, quoi, tout simplement.
Bon, après, c'est un wargame, donc les feuillets de plus de 20 pages, ça ne fait normalement pas peur aux wargamers.
Alors, en raison d'un petit problème technique, il y a une partie de la bande qui a été polluée par des grésillements. Et du coup, j'ai préféré couper parce que je voulais pas vous torturer les oreilles. Et je vais donc vous faire un petit résumé des échanges qu'on a eu avec Flavien. Ça me permettra de monopoliser un petit peu la parole en son absence. Donc on allait aborder le thème du matériel, et notamment comment est-ce que le thème peut être amené dans le jeu grâce au matériel. Et on avait notamment parlé du choix d'inclure des figurines, des pions illustrés, des ressources personnalisées, donc les ressources découpées en bois, qui reprennent la forme des ressources que l'on manipule. On a aussi parlé des stands, qui sont les personnages cartonnés qu'on retrouve par exemple dans 10 Minutes to Kill. Et Flavien a notamment parlé du jeu L'Elo Trésor, qui a récemment été chroniqué par Cyrus. Il disait que c'était un très bon exemple de jeu dans lequel le matériel amène énormément de thèmes et ce matériel est en adéquation avec la méca offerte par le jeu. Donc notamment il parlait du compas et des cartes sur lesquelles on peut gribouiller. Ensuite on a parlé également de la communication, alors qui se fait en amont du jeu ou à côté du jeu. Notamment la diffusion de trailers, des articles sur Facebook, des petites capsules qui sont présentes sur le site des éditeurs qui permettent de commencer à présenter l'univers et à préparer l'avènement du thème pour les joueurs qui vont découvrir le jeu. Donc l'idée c'est de donner les prémices de l'univers au travers de ces communications. Et enfin, on avait enchaîné sur les thèmes politiquement corrects ou incorrects, et notamment les thèmes qui apportent, qui soulèvent quelques problématiques, avec des jeux comme Secret Hitler ou encore Barbarossa, ou même les wargames en général. Et maintenant, on reprend le fil de la discussion.
Également, tout ce qui est...
Tout ce qui est jeu qui va faire référence à... à des ethnies, hein, ça peut...
Puerto Rico, et parfois le jeu change, et moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose de s'adapter à son époque, de s'adapter aux critiques qu'on a eues. Après, il y a le rôle des femmes notamment dans les jeux de société, les thèmes, souvent les mettre dans des fonctions qui sont stéréotypées, que ce soit la princesse à sauver, comme je disais tout à l'heure, que ce soit... Même au niveau des illustrations, pour le coup, que ce soit...
Et là, on parle de Zelda ?
Bah, Zelda, clairement, se base sur ce stéréotype, le transforme en archétype, du coup, ça va, mais ce serait super cool d'avoir un jour Zelda qu'on peut jouer. On l'a déjà, je crois qu'on la joue déjà à un moment dans je sais plus quel Zelda, mais voilà.
C'est elle qui va sauver Link, peut-être.
Si seulement. Ça renversera un peu les choses. Mais bah, en plus, ouais, pour le coup, dans le dernier, elle a vraiment un rôle important. Mais voilà, ouais, enfin, il y a vraiment... c'est problématique, certains éditeurs commencent à travailler dessus, mais en même temps... ces stéréotypes font vendre aussi parce que c'est le consensus. Donc voilà, c'est voilà, des thèmes qui peuvent marquer. On vous invite aussi à écouter c'est Paris, je crois, la Team Paris dans Our Series, qu'on avait un peu parlé de tout ça, de tout ce qui est politique, aussi l'écologie, etc. Voilà, est-ce qu'on fait un jeu sur la Terre plate
peut-être. Ça serait rigolo.
Orbis, c'est un peu ça, peut-être. On voit que des Terres plates. Mais voilà, bon, en tout cas, on va pas s'étendre là-dessus sur le politiquement correct ou incorrect dans les thèmes, parce que ça nécessiterait une émission tout entière et un peu plus documentée que ça, sûrement. Juste finir ouais, sur quelques thèmes, toi, qui peuvent t'avoir marqué dans ta vie de joueur.
Twilight Struggle.
Ouais.
Forcément, thème historique. Et les thématiques
donc, la guerre
scientifiques.
Froide, hein,
ouais, la guerre froide. Ouais. Il y a ça, donc tout ce qui est histoire un peu moderne, c'est des thématiques qui m'intéressent.
Histoire moderne, tu veux dire contemporaine
Contemporaine, ouais, ouais, sans remonter à l'époque napoléonienne, etc.
D'accord,
ouais,
donc vraiment, ok, 20e quoi.
Ouais, 20e siècle, hein. Éventuellement révolution industrielle. Ouais. Ouais. Et sinon, les jeux où il y a des thématiques scientifiques hein, ou des thématiques de SF, mais avec toujours cette recherche de véracité scientifique, de cohérence, de crédibilité. Moi, j'apporte une attention très particulière à la crédibilité.
Tu sais pourquoi ? Est-ce que c'est des thèmes qui te marquent particulièrement ?
C'est non, mais je pense que c'est mon côté un peu cartésien, peut-être un peu la formation, peut-être un peu scientifique, tu vois.
Mmh. Ouais, d'accord, ouais.
Et pour autant, tout ce qui est thématique à base de super-héros, de super-pouvoirs, je vais moins m'y intéresser.
D'accord.
Ça va être un peu repoussant. Pour autant, l'heroic fantasy... Alors tu peux te raccrocher à la cohérence avec un peu la magie, tu vois, qui peut donner du sens. Mais je sais par exemple tout ce qui est film Marvel, par exemple, de super-héros.
Ouais, c'est pas un que truc dans que le j'accroche société, pas du hein, tout. C'est
ouais,
de manière générale.
De manière générale.
Ok.
Même les jeux vidéo.
Pas Zelda alors.
Non, j'ai pas la Switch, donc ça règle le problème.
D'accord. Bah moi, il y a quelques-uns. Il y a Zombicide et Colt Express. Alors c'est pas tellement par la thématique, plus par la narration qu'ils induisent, donc c'est pas le thème qui m'a marqué, c'est la façon dont ils racontent une histoire et dont on se projette cinématographiquement dedans. Il y a Djangopolis, je trouve, qui est un jeu très quand même assez mécanique, mais qui a son thème en fait qui pour le coup est assez original hein. On est vraiment dans tout ce qui est écologie, cité verte, etc., architecture végétale et compagnie, et ben ça se retranscrit aussi sur le plateau, et je trouve que c'est de manière assez brillante, au-delà de la mécanique que j'aime beaucoup. On a cité Scythe. La thématique est vraiment cool. Le thème est vraiment cool. Pour le coup, il était repris aussi dans Iron quelque chose, en jeu vidéo. Là, comme quoi, c'est vraiment à partir du thème, puisque ça va être un STR. Un autre jeu, bon, il y a les jeux de Shvatil, que je trouve toujours incroyables dans la cohésion thème-mécanique. Enfin, à chaque fois, je trouve qu'ils s'en sortent super bien. Pourtant, c'est là aussi des jeux très mécaniques. Et enfin, pour citer un dernier, Last Will, que je trouve vraiment...
j'ai pas joué celui-là.
C'est un thème où il y a l'oncle qui est mort et où il faut qu'on ait le plus d'argent. En fait, je sais plus, ça fait longtemps que j'ai pas... Ah non, pour avoir l'héritage, il faut être celui qui dépense le plus. Il faut arriver à zéro.
Ah, c'est pas Last to Bill enfin viré. C'est un autre jeu. Ça
c'est l'extension, je crois.
Ah, c'est l'extension.
Mais c'est le prolongement et je trouve que la thématique de dépenser son argent et donc d'être le premier à avoir tout dépensé, plutôt que d'être le premier à avoir le plus d'argent, je trouvais ça assez rigolo, avec les illustrations aussi qui étaient assez chouettes. Donc c'était un jeu qui était chez Yellow en français, je ne sais pas s'il se trouve encore. Je crois qu'il l'avait revendu, pas sûr. Mais c'est un bon jeu en tout cas, c'était un jeu sympa. Puis les jeux... Enfin moi pour le coup, bon là ça ne se voit pas trop dans ce que j'ai cité. Et c'est aussi parce que j'ai du mal à me projeter émotionnellement dans un jeu. Mais j'adore quand effectivement ça me ferait voyager, vivre des aventures, le 7e continent aussi. Mais les thèmes des jeux de société arrivent peu à me faire voyager à ce point. Le 7e continent y est bien arrivé, mais un jeu comme Robinson par exemple, qui a le côté survie, qui enlève un peu à l'évasion, mais à la manière d'un Zelda hein, dont je parlais avant, Il y a peu de jeux qui comme ça arrivent.
C'est ce que je reprochais à Dead of Winter, tu vois, où le côté comptabilité en fait vient un peu nuire en fait au vécu de l'aventure. Hein. Parce que tu sais que tu es tout le temps à la ramasse.
Ouais, bon, après Robinson, pour le coup, le côté survie va avec la thématique. Hein. Je veux dire, on n'est pas en vacances. Mais ouais, non, moi j'adorerais des jeux qui effectivement me font. Ouais, comme Zelda, où j'ai juste une envie, c'est d'être dans Hyrule ou dans Subnautica, retourner sur cette planète. Il y a peu de jeux qui arrivent à faire ça, et du coup, c'est... les jeux que j'ai cités, c'est plutôt des thèmes assez plus cinématographiques ou réalistes. Ce qui est amusant parce que c'est pas du tout ce qui me parle le plus. Mais
et du coup, là, est-ce qu'on n'arrive pas à la limite du média ?
Non, ben ça, je ne pense pas. Je pense qu'on est à une limite, mais je pense qu'il y a des brillants auteurs qui réfléchissent à comment véhiculer de l'émotion et de l'immersion et de la narration d'autres manières. Time Stories, par exemple, il y arrive pas trop mal. Ça dépend des scénarios, mais voilà.
Bon, ben, on parlera peut-être dans un prochain Thermo Fromage, dans eux comme émotion, du coup.
Ah, si seulement. Non, l'émotion, c'est important. On va s'arrêter là. Je te laisse faire la petite conclusion.
Eh bien, que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr. Proxy avec un i, jeu avec un x. Vous y retrouverez les références et notamment les jeux dont on a cité.
Longue liste de.
Ouais, la longue liste, tu vas avoir du boulot. Hein.
Ouais. Merci à ceux qui ont répondu sur Twitter aussi. Hein. Sachez que c'est apprécié. Ah oui, si, en thématique, il n'y a pas tellement de gens qui nous ont parlé de thèmes qu'ils ont appréciés. Il y avait Blanche qui nous a parlé de l'hôtel. Alors, je ne sais pas si c'était en référence à quel jeu, si c'était au Monopoly ou à Hôtel en lui-même.
Ou Grand aussi à Hôtel, peut-être.
Peut-être. Et également Alexandre qui nous a cité, et là c'était intéressant, c'était la façon dont l'exposition des Pays-Bas était présentée, donc l'exposition à la montée des eaux, dans Pandémie, montée des eaux justement, et montrer que c'était un lieu qui était potentiellement en danger avec le réchauffement climatique, etc. On sait tous que ça n'existe pas, hein, Donald, on te salue. Mais voilà, en tout cas c'était un exemple intéressant de la façon dont la mécanique montrait ce thème. Donc merci à celles et ceux qui ont participé sur Twitter. Nous, on se retrouve dans 2 mois.
Dans 2 mois, normalement, pour le prochain épisode. Et ben, en attendant, on vous souhaite une bonne immersion dans vos thématiques. Et d'ici là, jouez bien. Je t'aime, je t'aime.